Il est 12h30 sur France Culture. L'heure des informations avec vous, Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Procès Meira, le parquet fait appel ce matin. Le ministère public estime que la Cour d'assises spéciale de Paris n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques des faits qui lui étaient soumis, notamment pour avoir acquitté Abdelkader Meira de la complicité d'assassinat de son frère, qui lui avait été donc reproché, commentaire de Florence Turbe. L'Assemblée nationale adopte la nuit dernière une baisse de 10% des financements qui sont alloués au logement social. Débat houleux cette nuit dans l'hémicycle dont nous parlera François-Pierre Noël, analyse d'Annabelle Grelier. La réforme fiscale de grande ampleur aux États-Unis annoncée, le taux d'imposition des bénéfices des sociétés diminuerait fortement de 35 à 20%. Nous marchons sur les traces de Reagan, déclare le président républicain de la Commission des finances. Précision avec Jean-Marc Chardon. Après l'incarcération de 8 membres du gouvernement catalan, un mandat d'arrêt européen est attendu dans la journée qui viserait donc le président Puigdemont destitué. Précision de Pierre Benazet et de Sébastien Berriot, l'invité de la séquence interview, Sébastien Pietrasanta, qui est ancien député socialiste, qui fut aussi rapporteur du projet de loi sur la lutte contre le terrorisme. Dans la dernière partie de la Grande Table, Raphaël Bourgois.
Dans la dernière partie de la Grande Table, Antoine, rien à voir avec vos titres. L'imbécilité est une chose sérieuse. C'est le titre de l'essai du philosophe italien Maurizio Ferraris, publié aux presses universitaires de France. Eh bien, on va voir en quoi c'est une chose sérieuse.
Le procès Meira donc avec l'appel du parquet, appel attendu au lendemain de ce verdict de la cour d'assises. 20 ans de réclusion pour Abdelkader Meira pour association de malfaiteurs, terroristes. Le ministère public estime donc que la cour n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques des faits qui lui étaient soumis. Et notamment cette question de complicité d'assassinat qui avait été rejetée. L'appel du parquet va concerner aussi Fethi Malki, puisque qui est condamné lui à 14 ans de prison pour avoir vendu l'arme et le gilet pare-balles à Mohamed Meira. En connaissant sa radicalisation. Florence Turbe, bonjour.
Bonjour.
Bon, quelles sont les raisons de cet appel et les conséquences aussi prévisibles ?
Alors d'abord, on peut dire que ce n'est pas une grande surprise dans la mesure où la décision de la cour d'assises est une forme de camouflet pour l'accusation. À l'audience, l'avocate générale avait estimé que les deux principales incriminations retenues contre Abdelkader Meira étaient constituées. D'une part, l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, cette notion que la défense avait tenté de balayer en la qualifiant de notion fourre-tout, mais que les cinq magistrats professionnels ont retenu contre l'accusé. Ils ont d'ailleurs prononcé la peine maximale prévue par le code pénal, 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté des deux tiers. Là où la défense d'Abdelkader Meira l'a en revanche emporté, c'est sur la complicité d'assassinat, un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité. C'est ce qu'avait requis l'avocat général lors de son réquisitoire en dénonçant une taquilla, principe de la dissimulation, une taquilla à géométrie variable. Le ministère public estime donc, vous l'avez dit, que la cour d'assises n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques des faits qui lui étaient soumis, notamment en prononçant cet acquittement partiel au bénéfice de d'Abdelkader Meira. Et c'est en réalité plus que symbolique. D'une part, parce que la peine encourue était potentiellement bien supérieure à celle prononcée. D'autre part, sur le fondement même de l'accusation, que les magistrats n'ont donc pas suivi en adoptant le raisonnement juridique de la défense. Le président a longuement expliqué les motivations de la cour hier. La présence d'Abdelkader Meira lors du vol du scooter et l'achat d'un blouson pour son frère ne sont pas suffisants pour fonder la complicité. Autrement dit, manque de preuves matérielles nécessaires à une condamnation. L'appel du parquet porte donc bien sur une vraie question de définition de droit pénal, mais il rattrape aussi l'émotion qui a traversé ce procès de part en part, la douleur des familles en premier lieu, puisqu'on le sait, désormais, il y aura un autre procès Meira.
Merci beaucoup Florence Turbe. On va vous retrouver tout à l'heure avec notre invité Sébastien Pietrasanta, qu'on salue. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes ancien député socialiste. On va revenir avec vous sur ce procès Meira plus longuement, mais sur cet appel, ça vous semble un appel logique? Est-ce que ça répond aussi à l'émotion, au fait qu'on n'ait pas considéré que le fait qu'on ait écarté cette accusation de complicité d'assassinat n'est pas forcément toujours bien reçu?
C'est un appel logique de la part effectivement de l'avocate générale, parce qu'elle considère qu'elle a perdu sur un des chefs d'accusation qui est effectivement la complicité. C'était tout le débat d'ailleurs de ces 5 semaines de procès un peu hors normes, tout le débat de savoir si effectivement il y avait complicité, est-ce que l'absence de preuves matérielles est en soi un signe de culpabilité à travers effectivement ce que Florence Turbe venait de décrire exactement, la taquilla, cette volonté de dissimuler ses véritables intentions. Est-ce que cette absence de preuves est une preuve de culpabilité? Les magistrats ont dit non.
Merci beaucoup. On va vous poser une question aussi sur le bilan de l'état d'urgence qui vient de tomber.
Et oui, puisque le ministère de l'Intérieur vient de publier le bilan chiffré définitif de l'état d'urgence. Quelques 4469 perquisitions administratives, 754 assignations à résidence et 19 lieux de culte fermés.
Oui, au cours des 23 mois d'état d'urgence, donc 23 mois ininterrompus, c'est un record, rappelons-le, pour ce régime d'exception qui a été créé en 1955 durant la guerre d'Algérie. 5 attentats ont été perpétrés, 99 morts. 13 tentatives d'attentats menées et 32 attentats au total déjoués selon le ministère de l'Intérieur. C'est un bilan évidemment très lourd. Est-ce que vous avez le sentiment que maintenant que l'état d'urgence a été supprimé pour être plus ou moins intégré dans une loi antiterroriste, les choses sont mieux cadrées, Sébastien Pietrasanta?
Alors d'abord, je voudrais revenir sur les chiffres que vous avez évoqués. Il y a eu effectivement à peu près 4500 perquisitions administratives. Sur les 4500 perquisitions administratives, il y a eu quelques affaires seulement en matière de terrorisme. Donc c'est essentiellement beaucoup de droits communs qui ont pu être réalisés à travers ces perquisitions administratives. Et par ailleurs, lorsqu'on dit qu'il y a eu 32 attentats déjoués dans le cadre de l'état d'urgence, je nuance, il y a eu 32 attentats déjoués pendant la période de l'état d'urgence. Mais c'est pas forcément grâce aux mesures de l'état d'urgence que ces attentats ont été déjoués. C'est essentiellement grâce au travail des services de renseignement, aux contacts qui ont été donnés par les services partenaires étrangers, mais ce n'est pas forcément les mesures de l'état d'urgence qui ont permis d'empêcher cela. Lorsque j'étais parlementaire, à travers l'action notamment de Jean-Jacques Urvoas quand il était président de la commission des lois, il y a eu un contrôle parlementaire extrêmement accru sur ces mesures-là. Et ce qu'a montré le contrôle parlementaire, c'est que l'état d'urgence a été utile dans les premières heures et les premiers jours de sa mise en œuvre, notamment par son effet de surprise à travers les perquisitions administratives. On n'était pas attendu, les services n'étaient pas attendus, il y a eu un certain nombre de levées de doutes. Et puis au fil du temps, l'état d'urgence, son effet s'est estompé, forcément parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise, parce que on était attendu à travers les perquisitions. Et donc, en réalité, il y a eu très peu d'actes de perquisitions, très peu d'assignations à résidence ces dernières semaines, ces dernières mois.
Sébastien Pietrasanta, merci beaucoup. On en vient à ce qui s'est passé maintenant à l'Assemblée nationale depuis hier soir, cette nuit et puis encore ce matin. La baisse de 10% des financements alloués au logement social. L'Assemblée nationale adopte donc en première lecture le budget du ministère de la Cohésion des Territoires en baisse de 1,7 milliard d'euros. Le gouvernement fait voter ce matin un amendement qui va permettre une mise en œuvre progressive de cette ponction financière. Mais l'économie budgétaire annuelle qui est visée par le gouvernement devrait atteindre dès l'an prochain, être atteinte grâce à une hausse qui va intervenir en parallèle de la cotisation versée par les bailleurs sociaux à la caisse de garantie du logement locatif social. C'est un peu compliqué, on va essayer de démêler ces mesures. Bonjour François-Pierre Noël.
Bonjour Antoine.
Avec vous donc, on voit d'abord comment se sont déroulés ces débats depuis la nuit dernière.
Oui, l'amendement surprise du gouvernement hier soir a été voté ce matin dans un hémicycle peu rempli, seulement 87 votants. Les échanges ont été intenses sur l'impact de ce lissage financier, vous l'avez dit, pour les bailleurs sociaux. Pour le moment, on ne connaît pas avec certitude la méthode. Un nouveau prélèvement, bien une hausse de la TVA. D'ailleurs, l'État n'a pas manqué de rappeler qu'il était toujours en contact avec les organismes sociaux pour les conditions de cette ponction financière. La création de ce nouveau prélèvement pour arriver à l'objectif d'1,5 milliard d'économies annuelles consterne Adrien Quatennens, député de la France Insoumise.
Vous organisez et orchestrez la mise en péril de tout un système du logement social. La perte de recettes pour les organismes HLM empêchera une vision de long terme d'entretien et de construction du logement social.
Et du côté de la majorité, on n'a pas voulu revenir sur les longs débats de la veille, mais l'objectif reste le même, changer toute la structure vieillissante du logement social. Amélie de Montchalin, députée de La République En Marche.
Alors le système, je pense qu'on n'a rien contre le système. D'ailleurs, on est en train de discuter avec le système. Mais ce système, il s'est stratifié depuis 40 ans. Ce système, il est essentiel qu'on remette les outils en face des objectifs. Les objectifs, c'est quoi? C'est baisser les loyers, c'est relancer l'investissement dans la construction, c'est relancer la rénovation.
Alors maintenant, le projet de loi de finances passera devant le Sénat avant de revenir à l'Assemblée début décembre. Le gouvernement voit maintenant plus loin. Début d'année prochaine, le projet de loi logement dans lequel pourrait figurer une restructuration du secteur de l'habitat social.
François-Pierre Noël, merci bien. Débat donc très vif, vous le disiez, une réforme profondément injuste, affirme l'ancienne ministre Sylvia Pinel. Un péril pour tout le système du logement social, c'est la députée insoumise Clémentine Autain. On va casser un modèle HLM que beaucoup nous envient, affirmait de son côté le député communiste Stéphane Peu. Il fustigeait une politique mûrement réfléchie qui vise en fait à affaiblir le secteur HLM et renforcer le secteur privé. Partout en Europe, ajoute-t-il, où une telle politique a été menée, elle a été une catastrophe. Annabelle Grandlier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, d'abord, quelle est la logique finalement de la politique gouvernementale en matière de logement?
Bon, déjà, quels sont les reproches que ferait l'exécutif aux organismes HLM en France? Ils seraient trop nombreux, trop petits pour être efficaces. Le périmètre de l'émission serait flou et leur fonctionnement interne souvent opaque. Voilà en fait les principaux reproches qu'on fait au logement social du côté de l'exécutif. Il entend donc mener une réforme structurelle de ce secteur, mais pour y parvenir, et la méthode est contestable, il commence par couper les robinets du financement. Car comment le logement social est-il financé? Par les dotations de l'État, les loyers des locataires, dont une part d'APL, et les emprunts de la Caisse des dépôts et consignations alimentés par l'épargne des Français via le livret A. L'État a donc tous les leviers, ou en tout cas de multiples leviers financiers. Le premier objectif de cette réduction de budget est donc de réduire le nombre d'organismes HLM. 755 organismes recensés en France pour 26 régions, une centaine de départements. Ça peut paraître beaucoup et des efforts de réorganisation sont sans doute dans certains cas nécessaires. Dans certaines régions, la multiplication des organismes limite leurs ressources financières et le regroupement de certains d'entre eux leur permettrait des économies d'échelle sur le coût de fonctionnement notamment. Mais fermer le robinet donc de l'argent public pour pousser à la fusion et à la mutualisation des ressources est un peu théorique tout de même, car en baissant les APL, le gouvernement incite les organismes HLM à baisser les loyers, une baisse de loyer qui entraînerait donc une diminution des ressources et donc pour équilibrer les comptes, les organismes vont chercher à faire des économies et le risque le plus sûr est qu'ils les imputent sur leur budget d'investissement et donc sur la construction de nouveaux logements plus que sur des fusions donc d'organismes. Alors la logique donc de l'exécutif, semble-t-il, cette nuit à l'Assemblée nationale n'a pas été de changer de cap, mais de donner seulement un peu plus de temps aux acteurs du secteur du logement social pour comprendre le message de la réforme.
Annabelle Grelier, merci beaucoup. Bon, je vous voyais prendre des notes, mais vous n'êtes plus députée. Sébastien Pietrasanta, vous avez quitté la politique, finalement. Ça vous inspire quoi, cette réforme, en un mot?
Qu'il y ait une difficulté sur le fonctionnement un peu, effectivement, opaque d'un certain nombre d'organismes HLM, c'est une chose. Mais dans une période où on dit qu'il faut renforcer la cohésion de nos territoires, qu'il y a des vraies difficultés dans nos quartiers et dans nos banlieues, faire baisser de manière assez drastique le financement des organismes HLM est une vraie difficulté. Parce que ça peut mettre en péril un certain nombre d'organismes HLM plus petits. Et puis par ailleurs, c'est ce qui vient d'être dit, la baisse d'investissement dans le logement social, quand on sait qu'il y a quand même énormément de demandeurs de logements sociaux, et la baisse de fonctionnement qui peut aggraver un certain nombre de situations dans nos quartiers. Et donc c'est je pense pas une bonne politique de rogner l'argent du logement social. Et je pense qu'il y a d'autres choix, d'autres priorités à faire en matière budgétaire que celui-là.
Merci beaucoup. On vous retrouve donc dans quelques minutes pour reparler du procès Mera.
En Espagne, après l'incarcération de 8 membres du gouvernement catalan, la justice devait demander aujourd'hui à la Belgique de lui livrer le président indépendantiste destitué, Carles Puigdemont.
Oui, avec 13 membres de son exécutif et 6 membres du bureau du Parlement catalan, Carles Puigdemont était appelé à comparaître hier devant le juge, qui était saisi par le parquet général de l'État, mais comme il l'avait annoncé, donc il est resté à Bruxelles, où il se trouve toujours depuis le début de la semaine. Pierre Benazé, bonjour.
Bonjour Antoine.
Est-ce que vous avez des nouvelles de ce mandat d'arrêt? Est-il arrivé jusqu'à chez vous?
Pour l'instant, on en est toujours aux affirmations de Paul Bekaert, l'avocat de Carles Puigdemont. Il a affirmé hier en fin de soirée que le mandat d'arrêt avait été émis, mais pour le moment, Maître Bekaert est le seul à en être aussi catégorique, puisque on n'a ni confirmation d'envoi de la justice espagnole, ni de réception de la justice belge. Ce qui est certain d'ailleurs, c'est que les appareils judiciaires sont les seuls concernés. Jusqu'à la mise en place du mandat d'arrêt européen, les règles de l'extradition impliquaient la consultation des ministères, de la justice et des affaires étrangères. Désormais, le niveau politique n'a plus aucune prise sur le processus. Une fois le mandat d'arrêt européen émis par le parquet général espagnol, le parquet fédéral de Belgique doit d'une part envoyer un avis de recherche à tous les commissariats du Royaume et d'autre part nommer aussi un juge d'instruction qui décidera si Carles Puigdemont, une fois arrêté, doit être mis en détention préventive. Si le mandat d'arrêt européen satisfait aux conditions, son exécution est automatique. Au cas où il accepte de s'y plier, il devra être remis à l'Espagne dans les 10 jours. S'il s'oppose au transfert, la décision est uniquement entre les mains de la justice belge qui doit statuer dans les 90 jours, même en cas de recours. Ça vaut aussi pour les 4 conseillers, les 4 membres de feu le gouvernement régional catalan qui l'accompagnent ici. Maintenant, je vous dirais, il faut encore mettre la main sur Carles Puigdemont qui n'a fait surface que mardi pour sa conférence de presse et qui s'est depuis fait à nouveau très discret. On sait qu'il est capable de voyager. Il a peut-être quitté la Belgique, pourquoi pas vers la Roumanie, le pays de sa femme. Il a un passeport espagnol qui lui permet de voyager en Europe.
En tout cas, merci Pierre Benazé. Il déclarait hier vouloir alerter l'Europe sur la répression en Catalogne. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions depuis hier. Ce matin, seule la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, affirme que c'est une erreur d'incarcérer des dirigeants élus et cela devrait être condamné par tous les démocrates. Fin de citation. Sébastien Berriot, maintenant, bonjour.
Bonjour.
On voit comment les choses sont perçues en Catalogne. Quelles conséquences sur l'opinion publique? On est quand même en campagne électorale puisqu'il y a des élections le 21. Quelles conséquences sur l'opinion publique peuvent avoir ces derniers développements?
On a écouté, qu'ils soient indépendantistes ou pas, la grosse majorité des Catalans s'est réveillée ce matin complètement abasourdie. C'est vrai que depuis quelques semaines, la justice espagnole avait multiplié les gestes de fermeté. La société catalane s'attendait hier aussi à une décision ferme, mais pas aussi radicale. Les images montrant les ministres catalans quittant le tribunal dans les fourgonnettes de la Guardia Civile ont beaucoup choqué et provoqué un fort sentiment de colère. Le terme « prisonnier politique » est lâché, présent partout ce matin sur les réseaux sociaux. Dès hier soir, des dizaines de milliers d'indépendantistes sont descendus spontanément dans les rues à Barcelone, mais aussi dans de très nombreuses villes, Gérone, Lérida, Tarragone, même dans les toutes petites communes. On a vu la population sortir dans la soirée et se rassembler devant les mairies. Une colère froide qui s'est traduite aussi ce matin par un blocage de plusieurs autoroutes autour de Barcelone, blocage réalisé notamment par des agriculteurs avec leurs tracteurs. Une mobilisation qui pourrait s'amplifier dans les prochains jours. Les indépendantistes des associations ANC et Omnium sont en train d'organiser une grosse manifestation qui est prévue pour le 12 novembre. On a aussi une grève générale de plusieurs jours qui est en préparation. Si depuis une semaine, la contestation était un peu retombée en Catalogne, on voit que cette incarcération collective de l'exécutif catalan fait subitement remonter la pression. Même ceux qui n'étaient pas favorables à la déclaration d'indépendance dénoncent aujourd'hui l'attitude de la justice. C'est le cas, par exemple, de la maire de Barcelone, Ada Colau, qui a parlé d'une journée noire pour la démocratie. Dans un éditorial commun, une vingtaine de médias indépendantistes appellent solennellement ce matin à la libération du gouvernement catalan légitime. Le journal La Vanguardia lui évoque le pire scénario possible, avec ce risque qui est évidemment d'aboutir à une radicalisation dans le camp indépendantiste qui pourrait venir perturber très sérieusement la campagne pour les élections anticipées du 21 décembre.
Sébastien Berriot, merci beaucoup. On salue l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Maurizio Ferraris, bonjour. Vous êtes philosophe et quand vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'imbécilité est une chose sérieuse » dont on va parler. Quand je vous ai dit sur quel sujet vous souhaitiez intervenir dans le journal, à propos de l'imbécilité, vous m'avez dit la Catalogne, bien sûr.
Oui, justement, c'est mon fort, l'imbécilité pour analyse politique. Alors, disons, effectivement, on pourrait trouver plein de justifications de ce qui est en train de se passer. Mais il semble que la plus proche, la plus claire, c'est l'imbécilité. On ne trouve pas de véritables d'autres motifs. Un peu comme dans l'affrontement entre Kim et Trump ou la Brexit. Toutes ces choses sont des mystères historiques que peut-être reçoivent un peu de lumière en disant « mais peut-être qu'il y a de l'imbécilité en acte ».
Voilà, vous nous avez donné un avant-goût de la dernière partie de la grande
table. On va développer
Maurizio
tout à l'heure.
Ferraris, merci beaucoup. Dans un instant, donc, on vous retrouve.
L'Agence de la biomédecine alerte sur l'insuffisance de dons de gamètes. Elle vient de lancer une campagne d'appel aux dons intitulée « Quel donneur de bonheur êtes-vous ?»
Oui, oui, car aujourd'hui, on manque de donneurs et de donneuses. Et la crainte, c'est que la future loi autorisant la PMA pour les couples de lesbiennes et les femmes célibataires ne déséquilibre, Antoine Marette, un peu plus l'offre et la demande.
Effectivement, chaque année, ce sont 3500 nouveaux couples qui s'inscrivent pour bénéficier d'un don de gamètes. Les problèmes de fertilité s'accroissent, en particulier chez l'homme. La qualité du sperme décroît en Occident. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de dons pour répondre à ces problèmes de fertilité. En 2015, 540 femmes ont donné des ovocytes, 255 hommes, leurs spermatozoïdes, ce qui a permis à 1227 enfants de naître. Mais la demande étant très supérieure à l'offre, les couples peuvent attendre jusqu'à plusieurs années avant de bénéficier d'un don. Le risque de pénurie est tel que depuis 2016, on a élargi la possibilité de faire un don aux hommes et aux femmes n'ayant jamais eu d'enfants, ce qui devrait faire progresser le nombre de donneurs de 10 à 20%. Mais la demande devrait s'accroître fortement en 2018 avec l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Cela pourrait également dissuader certains donneurs opposés à la monoparentalité ou l'homoparentalité. Bref, une campagne d'information ne sera peut-être pas suffisante pour susciter de nouvelles vocations, à tel point que certaines voix s'élèvent pour proposer la rémunération des donneurs, comme cela se fait dans d'autres pays. Mais pour l'instant, en France, le sujet reste tabou.
Merci beaucoup, Antoine Marette. 12h50, retour au procès Mera avec notre invité. Question de Florence Turme qui a suivi pour nous ce procès.
Oui, donc Sébastien Pietrasanta, on a beaucoup critiqué la justice antiterroriste. Finalement, hier, toutes les parties étaient plutôt d'accord pour dire que les juges avaient résisté à cette question de pression de l'opinion publique. C'est votre avis ?
Oui, on a beaucoup critiqué effectivement depuis toujours quasiment cette justice antiterroriste. On était là effectivement face à une cour d'assises spéciale composée de magistrats professionnels qui ont pu effectivement résister à la pression qu'il y a eu tout au long de ces 5 semaines de procès. Et je pense qu'effectivement le jugement, qui est un jugement qui peut être critiqué et critiquable, mais c'est un jugement qui s'est appuyé sur le fond et sur les éléments matériels. Et donc c'est une décision de justice qui doit être respectée.
La classe politique, d'ailleurs, ne s'est pas tellement emparée de ce verdict, mis à part quelques commentaires ciblés sur l'éternelle critique de laxisme des magistrats.
Oui, mais je crois pas au laxisme des magistrats. Les magistrats professionnels ont jugé en droit, et ont considéré qu'il y avait une absence d'éléments matériels pour considérer que Mohamed Merah était complice, mais l'a condamné au plus fort quantum de peine sur l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste criminelle. Donc maximum 20 ans, il a pris 20 ans à Abdelkader Merah. Donc ça a été jugé en droit avec effectivement 14 ans également pour Fethia Malki. Donc ce sont des éléments sur lesquels les magistrats se sont appuyés et qui permettent de montrer qu'on peut, même si évidemment l'horreur était tout au long de ce procès présente, mais qu'on peut juger en droit, y compris sur les affaires de terrorisme, malgré l'émotion légitime.
Alors on peut s'arrêter d'ailleurs sur cette notion d'association de malfaiteurs qui est qualifiée souvent de fourre-tout par la défense et qui traverse désormais absolument tous les dossiers de terrorisme, en correctionnel ou aux assises, y compris parfois chez ce que certains appellent la justice préventive. L'association de malfaiteurs, qu'est-ce que c'est pour vous ?
Oui, mais c'est vrai que c'est le débat, c'est un peu la justice prédictive aussi. Hein. C'est par définition en matière de d'AMT, l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, c'est de pouvoir avoir suffisamment d'éléments matériels, de preuves pour éviter que tel ou tel attentat soit commis. Donc, c'est avant que l'action soit commise. Donc c'est effectivement toute la difficulté de pouvoir matérialiser les choses. Donc on parle de repérage, on parle effectivement de recherche, d'idéologie, ce qui a beaucoup été utilisé durant le procès Merah. Donc ce sont ces éléments matériels qui peuvent prouver une véritable intention ou une adhésion à telle ou telle pensée.
Et on assiste d'ailleurs depuis ces dernières années à un durcissement de la justice pénale en matière de terrorisme.
Oui, mais justement depuis l'affaire Merah, il y a eu cette volonté d'abord beaucoup de légiférer. On a, dans le précédent quinquennat, quasiment fait plus d'une loi par an en matière de terrorisme, et on a renforcé la législation antiterroriste à la fois par les moyens, par l'élargissement de son champ, mais également par une aggravation des peines. On est passé effectivement sur l'AMT criminel, on est passé de 20 ans à 30 ans. Alors, 30 ans, c'est la loi du 3 juin 2016. Donc, rappelons aux auditeurs qu'il ne peut pas y avoir d'effet rétroactif par rapport à l'affaire Merah qui s'est déroulée en 2012.
C'est pour ça qu'Abdelkader Merah n'a été condamné qu'à 20 ans, entre guillemets.
Effectivement, qu'à 20 ans, maximum à ce moment-là. Et aujourd'hui, désormais, sur les affaires de terrorisme, après juin 2016, on peut passer jusqu'à 30 ans.
Une dernière question, Florence.
Oui, alors, peut-être sur une image qui a frappé dans ce procès, celle de ces trois femmes, qui étaient trois femmes musulmanes, qui sont arrivées chacune avec un foulard. Il y avait deux mères de famille qui étaient sur les bancs des victimes, sur les bancs des parties civiles. C'était les deux mères de deux militaires tués par Mohamed Merah. Et puis il y a eu cette image de mère aussi qui est venue à la barre, la mère de l'accusé Abdelkader Merah et la mère de Mohamed Merah. Est-ce que ces confrontations, ce choc à la fois des cultures, des modèles d'intégration, ils donnent à voir, ils nous donnent des éléments de compréhension? Je vous pose la question parce que vous avez été auteur d'un rapport sur la radicalisation.
Vous avez 35 secondes.
Oui, mais la question justement de l'islam, parlons franchement, la question de l'islam est évidemment une préoccupation. Et aujourd'hui, on manque cruellement effectivement de voix en matière d'islam qui puisse s'exprimer sur ce genre d'affaires. La question de la radicalisation, c'est un vrai sujet pour lequel nous sommes encore démunis.
Merci beaucoup Sébastien Pietrasanta d'avoir accepté notre invitation. Un tout petit mot du temps. Généralement couvert, température 12 à 20 degrés. Édition réalisée avec Emmanuel Faucillon. N'oubliez pas 17h, le magazine de la rédaction. Agression islamophobe au Royaume-Uni, le multiculturalisme en question. Ce sont des reportages de Marion Lourd réalisés par Yacine Bouzard et présentés par Benoît Bouscarel. Et à 18h, le prochain journal est avec Anne Fauquemberg.